Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Les Bonnes Choses, c'est un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau en la personne de Pierre Hiverna. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
De quoi allez-vous nous parler en fin d'émission ?
Eh bien cette semaine, je suis allé dans ma boîte aux lettres et j'ai déterré tous ces catalogues dont nous abreuvent les supermarchés.
À tout à l'heure, 12h25 pour en savoir un peu plus. Matteo Caranta est avec nous, bien entendu, pour la madeleine. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Le souvenir gustatif d'une personnalité, comme son nom l'indique dans cette rubrique, à 12h15. Qui donc avez-vous rencontré ?
Eh bien, j'ai rencontré le chorégraphe Boris Charmatz qui a plongé dans le catalogue de ses souvenirs savoyards pour me livrer sa madeleine.
Quant à notre plat du jour...
Sur le menu de ta cantine, tu vois peut-être écrit « pain bio » ou « pomme bio ». Sur les emballages de produits alimentaires, tu peux aussi voir le sigle AB, qui veut dire « agriculture biologique ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « agriculture biologique » ?
Oh, label bio, le poulet certifié sans problème.
C'est vrai qu'on pense que c'est meilleur pour la santé et que même si c'est un peu plus cher, on sélectionne nos produits pour essayer de manger mieux.
Les consommateurs sont encore plus attachés, semble-t-il, à la qualité de ce qu'ils mangent, au circuit court depuis l'épisode de Covid.
Le bio ne veut pas forcément dire de saison. Par exemple, acheter un avocat bio, c'est un non-sens. Sa saison va de l'automne au printemps. Or, non seulement on peut l'acheter toute l'année, mais en plus, il vient de très loin, souvent d'Amérique latine. Idem pour la banane bio. On peut aussi citer l'huile d'olive bio, dans laquelle on trouve des résidus de plastique, dont un perturbateur endocrinien.
Le bio, ça paraît idéal. Mais est-ce vraiment si formidable ?
Label bio.
Est-ce vraiment si formidable ? C'est précisément la question que nous allons poser ce midi, puisqu'on ne compte plus les fêtes bio qui se multiplient un peu partout sur le territoire, comme récemment à Besançon, dans l'Ariège ou à Saint-Germain-la-Prade. Il faut dire qu'en 20 ans, les ventes de produits bio ont été multipliées par 10 et ils devraient représenter 10% de la consommation d'ici 2025. Mais face à la multiplication et à la multitude de produits verts qui s'affichent organiques, naturels, éco-responsables, ou même tout simplement bio sans qu'on sache toujours de quoi ils retournent, comment s'y retrouver ? Le bio est-il toujours bon, comme on nous le vend, pour la planète et pour notre santé ? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à notre invité du jour, Christophe Brusset. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien dirigeant au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire. Autrement dit, vous êtes un repenti. C'est peut-être comme ça qu'on peut vous présenter.
Je préfère dire un ancien industriel plutôt que repenti. Je regrette pas vraiment ce qui s'est passé à une époque où j'étais une autre personne, on va dire.
Auteur de deux best-sellers, l'un en 2015, Vous êtes fou d'avaler ça, point d'exclamation, qui s'est vendu à quelques 100 000 exemplaires, et en 2018, Et maintenant on mange quoi ? Vous venez de publier Les imposteurs du bio, c'est chez Flammarion. Vous étiez, Christophe Brusset, un acheteur de matières premières sur le marché mondial de l'agroalimentaire. Oui. En deux mots, avant de passer vraiment à votre livre Les imposteurs du bio, qu'est-ce qui vous a fait virer de bord ?
Bah en fait, j'en étais arrivé à un point où je pouvais plus consommer les produits qu'on fabriquait. Donc petit à petit, j'en étais arrivé à chercher des produits de meilleure qualité chez les producteurs locaux, via des AMAP, via les marchés. Et j'ai commencé à consommer bio dans les années 2000, à une époque où c'était encore relativement confidentiel.
Vous êtes même, je crois, installé en Autriche,
qu'on dit être le
pays le plus bio d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ?
Ça veut dire que 24% de la surface agricole de l'Autriche est consacrée au bio. Donc c'est bien loin devant la France, puisque de mémoire, on doit être à peu près à 9 ou 10%. Donc oui, l'Autriche est un pays où culturellement, les gens sont très sensibles à cette question du bio, de la nature et de la santé.
Puisqu'on est dans les définitions, Christophe Brusset, continuons. On voit du bio partout. On l'entendait déjà dans le petit montage réalisé par Jean-Christophe Francis. Et puis, je le rappelais quand même en introduction de cette émission. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en France, bio ?
Eh bien, c'est très facile. Et moi, c'est une définition qui m'a beaucoup amusé quand je l'ai lu dans les règlements bio de la Commission européenne. Il est dit qu'un produit bio est un produit qui répond au présent règlement. Donc ça, c'est la définition officielle, c'est-à-dire que vous avez un règlement européen qui définit quelques principes de production. Donc on vous dit pas que le produit, intrinsèquement, il doit être bio par rapport à telle ou telle caractéristique, mais on vous dit que pour qu'un produit soit bio, il faut produire d'une certaine façon. Et donc, le règlement vous dit, bah, si vous suivez ce qu'on vous dit, ce qui est inscrit dans le règlement, le produit est bio.
Et quels sont les critères?
Bah, les critères sont changeants, puisqu'on a eu plusieurs règlements, hein, puisque ça a commencé au début des années 2000. Ensuite, on a eu une première révision en 2007, 2008, puis 2018. Donc, vous avez une évolution constante de la norme du bio. Mais en gros, pour faire simple, on vous dit dans le préambule que on doit être le plus proche des produits naturels possibles, sans définir ce que ça veut dire que le naturel. Des produits plus ou moins écologiques, sans vraiment aller au bout de la démarche. Et donc, on définit globalement que ce sont des produits qui doivent éviter les produits de la chimie, donc pas de pesticides de chimie, pas d'engrais de synthèse, pas d'OGM, et quelques règles un petit peu de cet acabit.
Alors, ça a l'air quand même relativement flou, même si les critères sont stricts, et que les principes de production ont l'air quand même stricts. Est-ce que vous, vous faites une différence, puisque vous dites on ne définit pas non plus le mot naturel, entre ce qui est bio et ce qui est naturel, qu'on voit quand même aussi fleurir un peu partout?
Vous dites les règles sont strictes, non, pas du tout. Les règles ne sont pas si strictes que ça. Les règles sont en constante évolution et c'est un compromis entre, en Europe, entre tous les États européens pour arriver à un niveau minimum d'exigence.
Mais il y a quand même des labels. Il existe deux labels reconnus en France, vous le dites dans votre ouvrage, le label AB qui date de 1985 et le label Eurofeuille qui est un label européen. Qu'est-ce que garantissent ces deux labels?
Ces labels sont censés garantir que les produits labellisés, donc certifiés, sont bien produits en respectant les règles.
Les fameuses règles.
Les fameuses règles définies pour la production biologique. Mais rien n'est dit dans la norme sur, par exemple, le bilan carbone. Donc pour des produits censés être écologiques, du moins dans l'esprit des consommateurs, rien n'empêche d'importer des produits par avion de l'autre bout du monde. Rien n'empêche de cultiver des produits sous serre chauffée toute l'année. Donc il n'y a rien sur le bilan carbone, il n'y a rien réellement de précis sur la notion écologique et même sur la question naturelle. On ne va pas au bout de la démarche, on ne définit pas ce qu'est le naturel. Des produits naturels peuvent être dangereux, ils ne sont pas forcément sains. Et donc, c'est un travail, pour moi, qui n'est pas aussi parfait que ce qu'on veut bien vous faire croire.
Alors, continuons dans le petit travail de préalable à votre ouvrage, Christophe Brusset. On en entendait l'engouement des Français pour le bio. Est-ce que, sachant qu'aujourd'hui, le bio ne représente que 5% en fait, du total des achats alimentaires, ce terme n'est pas un terme proprement journalistique? Est-ce qu'il y a réellement un engouement des Français pour le bio?
Effectivement, même si aujourd'hui ça représente encore que quelques pourcents, alors avant les événements Covid, mais visiblement pendant le Covid, la consommation du bio a encore plus augmenté que prévu, donc on s'attend à ce que le bio représente en France dans les 10% du volume consommé d'ici 2025. Donc c'est un marché qui est devenu important, aujourd'hui on est à plus de 11 milliards d'euros par an, et c'est surtout 80% de la croissance des ventes en alimentaire se font grâce au bio aujourd'hui. Ce sont des produits en général à forte marge, à très forte, voire à trop forte marge. Donc aujourd'hui, aucun industriel ou aucun distributeur peut se passer de ce relais de croissance.
Trop forte marge. Là, on entre dans le cœur du sujet de votre ouvrage, Les imposteurs du bio. On a envie de vous demander qui sont les imposteurs, tout simplement. Vous y répondez assez clairement, puisque vous répondez que plus de la moitié des ventes de produits bio est réalisée par la grande distribution qui fait donc un certain nombre de bénéfices, de trop grandes marges, dites-vous. Expliquez-nous le processus qui conduit à cet état de fait.
Eh bien écoutez, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que les consommateurs ont intégré, grosso modo, que produire du bio, ça coûtait plus cher. Par contre, personne ne sait vraiment de combien, quel est le juste prix pour des produits bio. Sachant cela, les industriels et surtout les supermarchés se sont dit, bon ben, on peut très bien forcer un peu le trait et puis faire payer aux consommateurs ben, plus ou moins le prix qu'on souhaite. Et les études de Que Choisir ou de Sentiment de Consommateur ben, montrent, ben, ce sont les chiffres qu'ils annoncent d'après les enquêtes très sérieuses, que à peu près 40 à 41% du surcoût du bio est simplement dû aux surmarges prises par la grande distribution. Donc le problème du prix, c'est une première chose, mais ce que j'énonce aussi, ce sont tous ces supermarchés et ces industriels que je connais très bien pour avoir travaillé pour eux, qui vendent du bio, du pseudo-bio, voire du faux bio, en toute connaissance de cause, simplement parce que le marché est mûr et qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'y lancer pour faire du profit.
Oui, alors vous nous parlez effectivement du faux bio. Sauf que là, quand on vous lit, on est surpris parce qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait du faux bio, les contrôles, on est souvent en France, c'est très contrôlé, surtout le bio. Or, vous estimez qu'il existe entre 15 et 20% de fraude.
Oui, mais c'est vrai que bah en France on parle beaucoup, mais on a tendance à agir beaucoup moins, j'ai l'impression. Donc oui, on va vous dire que le bio c'est super sécurisé, c'est super contrôlé. Mais de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, les organismes certificateurs font un contrôle par an, quelques heures par an chez un producteur. Ça veut dire que ils sont pas chez le producteur pendant 364 jours. Voilà, on vous dit effectivement que les normes sont draconiennes. Je suis désolé, ce n'est pas le cas. On vous dit que les contrôles sont très sérieux, sont très fréquents. Non, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Ensuite, le bio c'est réellement une obligation de moyens. mais pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que rien ne différencie un produit bio d'un produit non bio. Si vous analysez un produit, vous n'avez pas moyen technique de savoir s'il est bio ou pas. Globalement, on peut dire qu'en moyenne, les produits bio peuvent être meilleurs au goût, meilleurs pour la santé, contenir moins de pesticides, moins de produits chimiques, etc. Oui, c'est vrai, en moyenne. Mais vous pouvez tout à fait trouver le cas contraire. Alors aujourd'hui, les consommateurs pensent que on peut identifier un produit non bio par la présence de pesticides, mais c'est même pas le cas, parce que vous avez des fois des pollutions avec des pesticides qui peuvent être emmenés par le vent, des pollutions de l'environnement.
On l'a vu d'ailleurs dans l'enquête des 60 millions de consommateurs qui date de juin 2019. Mmh. Il y avait du lait bio qui contenait des perturbateurs endocriniens, des additifs dans les biscuits, des pesticides dans les mueslis, etc.
Tout à fait. Et c'est vrai que moi, il y a une expression qui m'a beaucoup amusé, que j'ai appris la semaine dernière, c'est une promesse de pureté. Et c'est une expression qui, pour moi, a fait tilt. Et c'est vrai que chez les consommateurs, quand on pense bio, on a l'impression qu'on nous fait une promesse de pureté du produit. C'est-à-dire que le produit sera exempt de tout produit chimique. Pourtant, les producteurs vous disent non, le bio ne vous promet rien de plus que ce que la norme impose. Si l'environnement est pollué, si les sols sont pollués, s'il y a du PCB, s'il y a de la dioxine, etc., les animaux qui vont brouter dans les pâturages vont produire des produits pollués. Et ça, le bio ne pourra pas vous en protéger.
Bon, alors Christophe Brousset, comment fait-on quand on est un consommateur pour reconnaître un bon produit bio ?
Je vais vous décevoir, mais il n'y a pas moyen de reconnaître un bon produit bio d'un mauvais produit, même pour un professionnel, même pour moi.
Vous dites quand même les applications peuvent aider à détecter des additifs, des pesticides, etc.
Les applications vous aident à lire les étiquettes, mais une application n'analyse pas le produit. C'est-à-dire que si le produit est faussement labellisé bio, vous n'aurez aucun moyen de le savoir. Ni avec une application, ni avec une liste d'ingrédients, il n'y a aucun moyen de le savoir réellement. Même avec des méthodes d'analyse. Avec un petit guillemet, c'est-à-dire que des nouvelles méthodes d'analyse par l'analyse de l'isotope de l'azote permettent de savoir si les produits sont cultivés avec des engrais de synthèse. Les dernières analyses qui ont été réalisées par l'université de Kessel en Allemagne montrent que sur les échantillons qui sont testés, à peu près 80% des produits chinois sont fraudés. Vous voyez, on ne parle pas d'une paille, on parle d'une fraude massive, d'une origine bien précise. Donc, sur des produits fraudés, une application n'a pas moyen de le savoir. L'application fera simplement récupérer les informations quelque part pour vous la montrer de manière lisible. Mais elle n'analyse pas le produit.
Alors en quoi, Christophe Brousset, est-il nécessaire, bon, de continuer d'acheter du bio, sachant qu'en plus c'est plus cher ? Cela dit, vous nous dites que, vous soutenez d'ailleurs, que ce qui coûte le plus cher, c'est de ne pas manger bio. Expliquez-nous cela.
Effectivement, alors, sans ambiguïté, moi-même je consomme bio et j'achète bio. Parce que je considère que le bio, de toute façon, même si c'est pas parfait, c'est mieux que le conventionnel. Ensuite, il y a du faux bio, effectivement, mais il faut pas noircir le trait, ce n'est pas la majorité des produits. Donc il faut aller vers le bio, encourager le bio, etc. Ensuite, effectivement, c'est plus cher, ça c'est certain. Mais il faudrait quand même arriver à faire plier la grande distribution pour que les marges sur les produits bio soient à des niveaux normaux. C'est-à-dire qu'ils prennent en gros les mêmes marges sur le bio que sur le reste. Donc ça, il me semble qu'on devrait pouvoir l'imposer. On leur a fait un cadeau énorme avec la loi Egalim en 2018 où on leur a sécurisé 10% de marge sur tous les produits. Et cette sécurisation des marges a été payée par les petits producteurs et par les consommateurs. Donc il me semble qu'en retour, on devrait exiger certaines choses. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ensuite, effectivement, moi je me penche aussi beaucoup sur ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire que on ne fait pas aujourd'hui payer l'agriculture conventionnelle, la pollution des sols, la pollution des nappes phréatiques, le chlordécone dans les Antilles, le lindane en Bretagne, donc tout ce qui est pollution, la disparition des insectes, des oiseaux, etc., tout ça, le conventionnel ne le paye pas. Donc, quand on achète un produit, on sous-paye le conventionnel et on surpaye le produit bio. Donc, quelque part, et surtout pour les gens qui ont peu de moyens, c'est une double peine.
Dans mon magasin bio, oh, 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 c'est fou comme je me sens bien. Je me sens comme ces poireaux, oh, 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 ces légumes du jardin. Imparfait, plein de défauts, je me sens vrai, je me sens bio.
Mathéo aussi, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bio, non ?
Je me sens tout à fait bio et peut-être que Boris Charmatz aussi.
Aurait pu danser peut-être absolument, sur ce, créer une chorégraphie sur cette formidable musique choisie par Jean-Christophe Francis.
Alors, Madeleine, moi j'ai rencontré Boris Charmatz, je vous le disais, le chorégraphe de La Foule et des pièces aux dizaines, voire centaines de danseurs qui fluctuent et vibrent entre la scène et le public. Eh bien, cet automne, il se fait tirer le portrait par le Festival d'automne à Paris qui revient sur plusieurs de ses créations comme 20 danseurs pour le 20e siècle au Théâtre du Châtelet. Alors pour ça, Madeleine, il ne m'a pas parlé des légumes du jardin bio, mais d'une pierre angulaire de ses repas familiaux, une pâtisserie nichée dans les hauteurs savoyardes.
Ma Madeleine, c'est les rissoles, qui est un petit chausson que ma grand-mère nous préparait, ma grand-mère savoyarde. C'est une excellente cuisinière et elle avait un restaurant dans un endroit qui s'appelait les Grottes de Setnex. Et elle a toujours cuisiné pour toute la famille. Elle a eu 6 enfants, donc on faisait des fêtes de famille avec beaucoup, beaucoup de monde. Alors les rissoles, c'était plutôt pour l'hiver, c'était plutôt pour Noël. Pour des grands moments comme ça, il y en avait énormément. Et moi, j'en mangeais énormément. Et j'ai du mal à m'arrêter. Alors, il y a plein de recettes, en fait. Et moi, je fais pas les rissoles parce que c'est ma mère qui a repris le flambeau. Et puis, sûrement, un jour, il faudra que mon frère et moi, on s'y mette. Et rissoles, normalement, ça devrait être rissolé, mais nous, on les fait au four. Et puis, j'ai lu que souvent, c'est une poire qui est assez dure, en fait, qui est presque comme du coin, qu'on fait en compote, qu'on cuit très longtemps. Mais nous, on le fait avec des pommes et avec des raisins macérés dans le rhum. On pourrait penser que ça ressemble à un chausson aux pommes, mais bizarrement, j'aime pas les chaussons aux pommes. C'est pas du tout un chausson aux pommes. C'est un petit carré, plus ou moins plat, mais il est quand même bien fourré de compote, donc il est quand même bien gonflé, doré. Et c'est très croustillant, il y a beaucoup de sucre sur le plat de rissoles. Si possible, il est encore tiède parce qu'il sort du four. Pour moi, le plus important, c'est la pâte feuilletée et le fait que, bon, elle est plus ou moins bonne. L'idéal, c'est quand elle est faite maison, mais on n'a pas toujours le temps. Il y a ce croustillant. Et ensuite, c'est pas de la compote de pommes à l'intérieur, c'est du confit de pommes avec des raisins secs. C'est une saveur un peu unique. Et souvent, j'arrive pas à distinguer la sensation de la langue, des dents, du palais, de l'odeur, mais du phénomène familial, en fait, des enfants qui ont de 3 grands-enfants, qui ont maintenant 80 ans, donc c'est vraiment toutes les générations, qui se retrouvent autour des rissoles et qui fait partie un peu du mythe. Donc c'est comme si on parle les rissoles, je retrouve un peu toute la Savoie que moi, finalement, j'ai assez peu connue parce que je suis devenu danseur, je suis parti, j'ai quitté la Savoie. J'étais à Nanterre, à l'école de danse de l'Opéra. La saveur des rissoles était sûrement loin, mais je savais que le week-end, ça pouvait revenir.
Boris Charmatz, la Madeleine, merci beaucoup Matteo Caranta. Et on retrouve notre invité Christophe Brusset, auteur des Imposteurs du bio, un livre dans lequel Christophe Brusset, vous battez en brèche un certain nombre d'idées reçues autour du bio. Une idée principale que vous avez commencé d'évoquer tout à l'heure, c'est aussi que vous nous dites, vous, que le bio n'est pas toujours bon pour la planète. Un tiers des produits bio vendus dans l'Hexagone est importé de l'autre bout du monde. C'est pas très écologique. Quand on pense bien sûr au transport. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait privilégier quand même l'origine française? Est-ce que vous irez encore plus loin en disant que la solution, c'est peut-être moins le bio que le local de saison?
Alors effectivement, c'est une bonne question. C'est-à-dire que si on pense bio, on ne doit pas simplement penser santé, on doit penser aussi environnement. Et puis finalement, tout ça, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on a un environnement sain, on peut estimer qu'on aura moins de problèmes de santé. Donc, importer des produits de l'autre bout du monde, effectivement, au niveau bilan carbone, c'est désastreux. Donc, le local, de toutes les façons, oui, il faut le privilégier. Ensuite, plus que ça, c'est-à-dire que moi, je travaille avec la Chine depuis les années 90. Je préfère, je suis allé en Chine, c'était en 1993. Et je connais la mentalité chinoise, les productions chinoises, la corruption galopante, la façon de produire, les faux certificats, etc. Et je n'ai aucune confiance dans les produits biologiques chinois. Donc, pour moi, je vois pas l'intérêt d'importer de Chine et d'importer 80% de faux produits bio. Donc clairement, oui, il vaut mieux produire localement. Ce sera meilleur pour la planète, pour la santé et aussi pour notre économie qui en a bien besoin.
Alors c'est ce que font un certain nombre de nos compatriotes aujourd'hui, notamment au sein d'un mouvement qui s'appelle l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, autrement dit et plus souvent connue sous le nom d'AMAP. Les AMAP d'ailleurs auront 20 ans en 2021. Nous sommes avec le cofondateur de ce mouvement, Daniel Vuillon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous êtes producteur de fruits et légumes dans le Var, donc à l'initiative de ce mouvement des AMAP en France avec votre femme, Denise, un mouvement qui aujourd'hui regroupe 15 000 producteurs, compte 6 millions de consommateurs, c'est dire qu'il a fait des petits, ce mouvement, en 20 ans. Et c'est un mouvement qui propose effectivement du local, de saison, à des prix accessibles au plus grand nombre, puisque je crois que des AMAPiens de Marseille ont calculé que le prix moyen en AMAP était 30% moins cher que celui de la grande distribution. Daniel Vuillon.
Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on est dans un circuit direct, court, sans intermédiaire. Il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas d'emballage. Donc, on arrive effectivement à un prix. Mais le prix, la définition du prix n'a rien à voir avec ce qui se fait dans ce que Christophe a pu étudier. Hein. C'est le prix à payer, c'est un prix comptable. c'est le prix qui permet à une ferme donnée d'exister. C'est l'addition des charges de cette ferme, dont la rémunération du travail, une rémunération décente, qui est divisée par le nombre d'abonnés que cette ferme est capable de nourrir, qui donne le prix à payer. À aucun moment on fait référence au prix du marché. On est déconnecté du prix du marché.
Est-ce que, Daniel Vuillon, les agriculteurs qui travaillent au sein du réseau AMAP sont tous en bio ?
Vous savez, quand on a créé les AMAP en 2001, le bio était nulle part, quoi. Donc, on n'a pas voulu, nous, bloquer des agriculteurs qui pouvaient rentrer dans cette alternative qui leur permettait d'exister alors qu'ils étaient en voie de disparition, voire qu'ils se suicident. Eh bien, il ne fallait pas qu'il y ait d'obstacles qui puissent apparaître. Or, les obliger à la certification bio à l'époque, où le bio était réservé à quelques magasins élitistes, et très peu d'agriculteurs étaient bio à ce moment-là. Il y avait des militants, mais il y avait très peu d'agriculteurs sur le nombre d'agriculteurs qui étaient bio, serait été leur fermer la porte au départ. Nous, on préférait utiliser la porte ouverte et qu'ils puissent, une fois qu'ils sont rentrés, à partir du moment où il n'y avait pas de risque économique, très très vite, ils passent à d'autres pratiques dans le respect de la charte que l'on avait éditée à ce moment-là, qui interdisait l'emploi de produits chimiques, pesticides, herbicides, OGM, etc. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la certification, mais sans que la certification soit obligatoire. Finalement, la certification, elle est donnée toutes les semaines par les abonnés de la ferme, qui connaissent parfaitement d'où vient le produit qui est dans leur assiette, par qui et comment il a été produit. C'est la traçabilité qui est totale et ils peuvent en permanence questionner l'agriculteur sur ses pratiques, qui doit nous répondre, parce que si l'agriculteur est hésitant ou triche, eh bien la confiance tombe, c'est un concept qui est basé sur la confiance, et à ce moment-là, il n'a plus d'abonnés, et c'est un système qui normalement est autorégulateur de ce côté-là.
Vous parlez de la certification bio, tout à l'heure Christophe Brusset nous disait qu'effectivement même au sein des labels, les choses sont évolutives, mouvantes, pas forcément très claires non plus, à moins d'avoir des labels, parce qu'il en existe d'autres, des labels qui ne sont pas nécessairement reconnus par l'État français, mais qui sont beaucoup plus stricts et beaucoup plus draconiens. Qu'est-ce qui manque, selon vous, Daniel Vuillon, au cahier des charges du bio aujourd'hui ?
Pour moi, il y a trois choses essentielles qui manquent et qui sont les piliers dans les AMAP. Un, c'est le respect des saisons. Deux, la proximité. Et après, c'est la qualité gustative. Parce qu'à partir du moment où c'est plus cher, ça doit être meilleur. Et comme on n'a pas de risque économique dans ce concept, on va faire des variétés qui ont des qualités autres que la productivité. On va faire des variétés qui ont des qualités gustatives qui sont nettement supérieures, voire des qualités nutritives qui sont aussi nettement supérieures. Donc, si vous voulez, ces trois choses sont des piliers dans les AMAP et manquent terriblement à la certification bio telle qu'elle existe aujourd'hui. L'étiquette bio, c'est un label commercial. Bon, nous, on est dans une démarche qui est quand même complètement différente. On est dans un partenariat avec nos abonnés, avec les familles abonnées. Et quand je plante une salade, je sais qui va la manger, quoi. Mais donc, c'est, si vous voulez, c'est l'importance de la qualité que l'on donne. On n'est pas limité par le fait que le productivisme est obligatoire lorsque son chiffre d'affaires, c'est la multiplication de la quantité produite par le prix du kilo. À ce moment-là, on a intérêt à produire le plus possible pour avoir le plus gros chiffre d'affaires. Et nous, on est complètement sortis de ça. Le prix, on l'a, la rémunération du producteur en AMAP, elle est entre 1200 et 2000 euros, alors qu'on a 40% des agriculteurs en France qui gagnent 350 euros. Par mois, quoi. Donc, à partir du moment où on donne à celui qui est le plus pauvre de quoi se nourrir, eh bien, on a la possibilité de nourrir pratiquement 90% de la population avec des vrais produits, avec une vraie nourriture qui donne santé et plaisir.
Merci beaucoup, Daniel Vuillon. Restez avec nous, Christophe Brusset, pour écouter la cerise sur le gâteau, puisqu'on disait que les achats de produits bio avaient flambé avec le confinement. Avant de retomber un peu, on ne sait pas si le confinement a joué un rôle d'accélérateur. En tout cas, autant de points abordés dans cette émission qui semblent avoir régressé, c'est ce que va nous dire l'ami Pierre Bernard. Pierre Bernard, donc, vous êtes allé dans votre boîte aux lettres. Qu'avez-vous trouvé dans votre boîte aux lettres ?
Eh bien, j'ai retrouvé nos amis distributeurs. Effectivement, j'ai décidé de remonter de ma boîte aux lettres l'essentiel de son contenu qui, depuis l'invention des mails, se compose essentiellement de tous les catalogues de distributeurs destinés à assurer la promotion de leur promotion. Et pour une fois, je me suis penché sur leur contenu plutôt que de les mettre directement dans la poubelle jaune adéquate, en râlant une fois de plus de devoir subir cette stupide agression écologique. Alors Caroline, il faut dire quand même que la stupidité en question est vertigineuse. Accrochez-vous. Si on ajoute brochures et prospectus publicitaires, tous les acteurs s'accordent à peu près sur le chiffre de près de 20 milliards de documents imprimés chaque année pour garnir nos boîtes aux lettres. Alors, pourquoi tant d'assassins d'arbres dans nos grandes enseignes de supermarchés? La réponse tient dans quelques autres chiffres que nous offrent les meilleurs instituts de sondage. Selon Nielsen, par exemple, 50% des Français disent consulter ces catalogues et 30% s'en serviraient pour faire leurs courses. Et selon une autre étude, Ipsos cette fois-ci, 71% des consommateurs disent choisir un magasin selon les rabais ou autres promotions proposées. Et c'est vrai que la plongée dans les offres promotionnelles de ces catalogues est édifiante. Et premier constat, la pandémie et la crise économique qui va avec sont bien passées par là. Plus question désormais des campagnes de 2019 intitulées, souvenez-vous, Act for Food, des actions pour mieux manger, ou manger local et de saison. Nous voilà désormais revenus à la doxa sémantique du monde d'avant, où vos courses vraiment moins chères rivalisent avec le 2 plus 1 offert, ou encore plus d'économies sur vos courses au quotidien, et le merveilleux, les auteurs se reconnaîtront, le troisième avec une réduction de 100%. Alors évidemment, loin de moi l'idée de porter le moindre jugement sur les millions de Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui doivent faire des économies sur tout, y compris l'alimentation. Mais pourquoi ne vouloir attirer exclusivement l'attention que sur le prix, sans mettre en rapport la qualité nutritionnelle des produits, voire même leur qualité gustative? Non, ces catalogues vous présentent des prix parfois tellement bas que personne ne peut réellement s'imaginer la réalité des modes de production. J'ai ainsi trouvé des poulets à moins de 4 euros le kilo et des crevettes qui viennent d'Équateur ou d'Iran à moins de 7,50 euros le kilo et dont on sait pertinemment qu'elles ne peuvent être vendues à un tel prix sans le travail peu ou pas rémunéré de mineurs. On ne peut pas à la fois faire de grands discours sur la prévention de la planète et bousiller les forêts pour faire du commerce de sauvage sous prétexte qu'il y a un marché de la pauvreté. Alors Caroline, il y a quand même une bonne nouvelle.
Ah !
L'Élysée a retenu, parmi les 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'était l'été dernier, l'interdiction de ces catalogues d'ici 2021, c'est-à-dire demain. Et je dirais malheureusement, plutôt après-demain, si j'en juge par l'état d'avancement de ce projet, pourtant essentiel pour imposer un minimum de considération humaine des distributeurs entre leur obsession du chiffre d'affaires, on en parlait tout à l'heure avec votre invité, et leur cynisme le plus froid.
C'était la chronique de Pierre Hiverna. Effectivement, CQFD, comme on dit, Christophe
oui,
Brusset.
Bravo, belle chronique, oui.
À lire Les imposteurs du bio, parce que tout ce que vient de dire Pierre Hiverna est peu ou prou dans votre livre, développé, argumenté, documenté. Exactement. C'est un livre extrêmement intéressant et important pour tout consommateur qui ne sait pas par à quel sein se vouer aujourd'hui.
Merci
beaucoup. Ce livre est édité chez Flammarion et il est signé donc de notre invité du jour, Christophe Brusset. Les bonnes choses se poursuivent en écoute, en podcast sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Toute l'équipe, Roxane Poulin, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Nasser Moussaoui, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, ça sera le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Weitzman. Excellent dimanche à tous et à dimanche prochain.